Israël au Kassai oriental. J'ai réfuté totalement cette
histoire. Moi, c'est Céline de Combati au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de maîtrise vivante, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Kapi qui vous propose parole aux auditeurs. Environ 25 personnes sont mortes durant le mois de décembre dans les éboulements survenus dans les carrières d'exploitation artisanale des minerais en province orientale et dans la province du Katanga. Ceci relance les débats sur la problématique d'encadrement des exploitants artisanaux à travers le pays. Que faut-il faire pour mettre fin à cette situation? 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission coordonnée par J.R. Longuembo. Julie Feza assure la réalisation du Manzango et à la mise en onde. Et Pierrot et la Menji vous la présentent sous la supervision d'Oben Kabamba Fidel. Auditeurs, bienvenue à tous.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Kapi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec le reporter de Radio Kapi.
Et pour en parler, nous recevons dans ce studio M. Baudouin Iyeta, coordonnateur général de CESCAM, service d'assistance et d'encadrement du Small Scale Mining, un service, je crois, technique au ministère de Domine, je crois bien. M. Baudouin Iyeta, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant peut-être d'aller plus loin, comment vous réagissez chaque fois quand vous apprenez qu'il y a des creuseurs qui meurent suite à un éboulement dans une carrière d'exploitation artisanale?
Oui, c'est toujours un événement triste hein, quand on apprend qu'il y a eu perte de vie dans une exploitation, quelque part sur un terrain. Mais cela nous invite à redoubler un peu les efforts que nous faisons. Parce qu'en réalité, le problème il est un peu plus complexe que ça. Vous savez, l'artisanat minier présente plusieurs aspects. Généralement, on ne voit qu'un seul aspect, c'est l'aspect social, parce qu'il y a eu des morts. Mais il y a tout ce problème qui concerne l'encadrement proprement dit, les moyens mis à disposition du service. Mais bon, nous avons fait des grands pas, et je pense que sous l'impulsion de son excellence, M. le ministre de Mines, il y a des initiatives qui ont été prises et qui font que aujourd'hui, des mesures sont en train d'être prises pour réduire le plus sensiblement possible, le plus possible de réduire ces accidents, et puis que l'encadrement s'effondre dans les meilleures conditions possibles.
Et c'est ce qu'on s'occupe de quoi, généralement, d'une manière globale, pour permettre aux auditeurs de comprendre?
Oui, c'est comme dit, hein, c'est l'encadrement, l'assistance et l'encadrement des artisanaux. Cet encadrement qu'on prend, bien sûr, la présence d'un encadreur qui va montrer comment on exécute par exemple un puits, quand il y a un danger quelque part, l'encadreur doit pouvoir dire, voilà, ce travail que vous êtes en train de faire, vous devez l'arrêter parce qu'il y a un danger qui pointe à l'horizon. Et puis, il y a cette assistance qui est diverse, qui peut être un peu financière, qui peut être matérielle, et même morale en fait, hein, parce qu'elle nous donne beaucoup de conseils. Et avec ce qui se passe maintenant, je crois qu'avec le nouveau code qui va arriver, il y a des nouvelles notions qui vont vraiment être appliquées. C'est notamment la notion des coopératives qui vont apparaître, puis la fédération des coopératives, et qui permettra déjà un premier encadrement par les membres de la coopérative, les responsables de la coopérative, qui vont déjà encadrer les creuseurs qui vont adhérer librement à une coopérative eux-mêmes. Et puis, ces coopératives vont se réunir en fédération, en fait. Dans les fédérations qui pointent à l'horizon l'existence des petites sociétés, des mines à petite échelle.
Oui. Mais je me rappelle qu'il y a quelques années, on en avait aussi parlé une fois dans Parole aux auditeurs, au niveau du ministère des Mines, il y avait des mesures interdisant, par exemple, pour l'exploitation du diamant au Kassai, les systèmes d'exploitation par galerie. Cela a été représenté beaucoup de dangers. On estimait qu'il était mieux d'exploiter les diamants, par exemple, à ciel ouvert aujourd'hui. Même ailleurs aussi, on exploite de l'or. Est-ce que ces mesures sont respectées ou bien il y en a qui continuent toujours à exploiter, à utiliser le système des galeries?
Les récalcitrants, il y en a partout. D'ailleurs, vous allez voir, dans bon nombre des cas, là où nous enregistrons des accidents, c'est soit des gens qui sont venus travailler la nuit, il y a eu éboulement, ils sont morts, et puis on a découvert le matin qu'il y a eu des morts, ou alors des gens qui s'entêtent réellement, parce qu'ils savent qu'il est difficile d'avoir derrière chaque creuseur un encadreur. C'est très difficile. Un encadreur, il encadre un certain nombre de creuseurs. Ils savent peut-être que l'encadreur ne sera pas là, il profite pour exécuter ce qu'il veut exécuter, Mais tout ça est répertorié, parce que nous avons un répertoire de tous ces accidents, des motifs, la façon... Et nous sommes en train de mettre au point des systèmes qui feront que ces nombres de morts vont être sensiblement réduits et que les choses seront respectées, notamment en formant les inspecteurs du CSCAM, en faisant des OPJ qui peuvent verbaliser quelqu'un qui est en flagrant délit. Parce que jusque-là, on n'a pas cette possibilité-là. Donc, si un acteur de CSCAM remarque qu'il y a une anomalie, il doit faire appel soit à un inspecteur des mines, qui lui est un OPJ par définition, ou alors aller vers la police des mines, qui va interpeller la personne. Ça prend du temps. Mais en ayant réellement des inspecteurs CSCAM qui peuvent verbaliser sur le champ, je crois que les gens craindraient un peu plus. Et CSCAM se verrait doté des moyens qui lui permettraient de travailler correctement. Parce que souvent, c'est ça. Quand il y a un problème, on dit CSCAM. Mais quand CSCAM sollicite d'avoir tel que le pouvoir, on dit non, non, la loi ne prévoit pas ça.
Oui. Mais quelle est la responsabilité du responsable, par exemple, d'un site, qu'il soit une personne physique ou bien une personne, une grande société, par exemple, s'il y a des trésors qui se rendent dans une concession d'une société pour exploiter, ou soit s'ils le font, comme on voit au Kassai ailleurs, dans une concession d'un particulier. Alors, quelle est la responsabilité de ce responsable de ces sites par rapport à tout ce que les trésors peuvent faire comme système d'exploitation?
Bon, ce qu'il faut dire. Que la loi, n'est-ce pas, interdit aux creuseurs d'accéder ou de travailler dans un site couvert par un permis octroyé à quelqu'un. Bon, il faut partir peut-être de notre commis, voir la façon dont ces codes ont été faits. Dans les codes qu'on a eus, quand les travaux avaient commencé, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui avaient été omises, notamment l'attribution avant les titres miniers, les dégagements des zones qui devraient être considérées comme des zones neutres ou des zones à octroyer à l'artisanat minier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe encore? On a des gens qui travaillent et puis on voit arriver quelqu'un à qui appartient la concession, à qui on a donné les titres miniers, qui vient dire, écoutez, vous êtes chez moi. Tout ça parce que je crois qu'on avait mis la charrue avant le bœuf.
Oui.
Maintenant, on essaie de se rattraper un peu. Nous reconnaissons qu'il y a eu cette erreur-là, mais on met en place des mécanismes qui permettent à ce que le détenteur d'un titre minier qui découvre des creuseurs dans sa concession, il peut s'adresser à l'État qui a mis en place un certain nombre de mécanismes qui permettraient à ces creuseurs de travailler sous certaines conditions, bien sûr, conditions qui seraient mises en place de commun accord entre le responsable des creuseurs, le service en charge de l'encadrement et le détenteur du titre, pour qu'il n'y ait pas des problèmes sociaux, parce qu'évacuer tous ces gens pour les placer où, encore qu'aujourd'hui nous avons des zones d'exploitation artisanale, si ces gens sont réunis en coopérative, ou on les pousse à se réunir en coopérative, on peut bien envisager de déplacer la coopérative et la concession de tuy vers une zone d'exploitation artisanale avec l'encadrement CSCAM. Tous ces mécanismes sont prévus, sont revus, on essaie de les appliquer. Bien sûr, il y a quelques fois de heurts, parce qu'il y a incompréhension, et c'est sur ça, où certains ont intérêt à ce que c'est la barde, n'est-ce pas ? Qu'on dise que ceci ne va pas, mais dans la plupart des cas, nous arrangeons spécialement au Katanga pour que le groupe des creuseurs soit conduit dans des airs. Il y a un effort d'ailleurs très 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 important qui a été déployé, partant des zones de la géologie qu'on va transformer en zone d'exploitation artisanale. Son Excellence Monsieur le ministre Demille s'est impliqué personnellement dans ces travaux-là. Donc c'est ce qui est en train d'être fait. Je pense que d'ici là, on connaîtra quand même une certaine accalmie dans ces agitations qui se font sur le terrain.
081-890-6315, c'est le numéro pour intervenir en direct. Sienne est à Guémena, dans la province de l'Équateur. Cam, c'est à Likasi. Dadi, ici à Kinshasa. Comment mettre fin d'une manière plus efficace à ces éboulements dans les carrières d'exploitation artisanale à travers le pays? Vous pouvez aussi participer à cette émission en nous appelant à ce numéro. Je rappelle encore que nous recevrons dans ce studio M. Baudin Yeta, coordonnateur général de CESCAM, service d'assistance et d'encadrement du Small Scale Mining.
Parole aux auditeurs.
Étienne, vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour, Radio Capu, à tous les auditeurs.
Étienne, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait de manière plus efficace pour éviter ces genres d'éboulements ou des situations?
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ben, je commencerai par présenter mes condoléances les plus attristées à toutes les familles trouvées quant à cet accident. Mais c'est bien vrai, c'est que, monsieur le journaliste, aujourd'hui, quand les jours, on a des accidents, ça et là, je n'arrive pas à comprendre. Parce que si tu dis que c'est que nous appelons les experts qui sont là, il y a quand même la police de tout. Mais les exploitations artisanales, on est en train de le faire au vie et au fil de toutes les autorités. Depuis, je viens de suivre l'invitation qui a parlé quand même des encadreurs, être là pour voir comment gagnent les choses. Ça peut être le journaliste. Je n'arrive pas à comprendre parce qu'un particulier ou une société a le titre d'exploitation. Je pense qu'au-delà de tous ces services-là, voir dans quelle mesure nous sommes en train de parler de l'exploitation artisanale. Mais à mon avis, je pense que ce service technique ne travaille presque pas. C'est pour laquelle, le jour au jour, on assiste à des accidents et à des morts, à des pertes, à des vies humaines. Si ce service travaille correctement, c'est qu'elle pouvait être opérationnelle. Pour réduire tant que ça fait le nombre d'accidents, aujourd'hui, on allait traiter de lits de conduite après des traitants artisanaux. Est-ce que vous savez qu'il y a quand même de notre temps, on exploite d'une manière artisanale, c'est une cause de profondeur. Vous savez, nous, quand on a fait de faire l'exploitation, quel auteur a tel souvent, il faut se faire, il faut quitter ses pistes pour aller dans tel ou tel endroit. C'est pour que les exploitants sont sains ou la justice. C'est pourquoi ils créent, alors, il y a la loi là, il y a des débuts, il y a des.
Alors, Étienne, on va laisser ceci à votre ligne, c'est l'extérieur, en tout cas, Étienne. Oui, Étienne, malheureusement, votre ligne, c'est l'extérieur, un tout petit peu. Vous appelez l'État à prendre ses responsabilités. Vous avez évoqué la présence des inspecteurs des mines, la police des mines, les services techniques, qui doivent, en principe, selon votre propos, faire correctement leur travail pour amener à faire respecter les normes. Quelle est la profondeur qui doit être normalement respectée quand il s'agit d'exploitation artisanale? Tout ça doit être fait d'une manière correcte. Vous avez interpellé la police des mines, les inspecteurs des mines et les autres services techniques. Si ils travaillent correctement, on peut réduire sensiblement ces cas d'éboulement à travers le pays. Merci beaucoup. Kams, vous êtes à Likassi, dans la province du Katanga. Bonjour, Kams.
Bonjour, Clément Lamagé, bonjour à l'invité.
Et vous, dans le Katanga, à Likassi particulièrement, quels sont les efforts qui sont fournis pour arriver à lutter contre les éboulements dans les carrières d'exploitation artisanale, si vous en avez dans votre milieu?
Merci bien pour la parole, Pierrot. J'ai réagi directement en posant la question à notre invité. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ici, dans la province du Katanga, il n'y a absolument rien n'est fait par rapport à cette situation-là. Moi, je pense que pour éviter ces arts de mortalité pour nos préserves artisanaux, il y a quelques problèmes très sérieux. Le problème est que le gouvernement de la République doit prendre les responsabilités. Là, c'est un problème de l'État. Vous retrouvez par exemple dans une carrière comme Lupoto, là où j'étais parfois aussi, j'ai passé au service social pour une carrière, il y a presque tout le monde là-bas. Il y a des inspecteurs de mines, il y a des directeurs de ces pas de ce stand. S'il y a un problème de problème, il n'y a absolument rien. Mais s'il y a un problème d'argent, là, ils seront le plus intéressant pour rien. Je sais qu'il faut donner le rapport de l'argent. Moi, je pense que pour essayer de faire des problèmes, il y a que l'État qui va tenir cette responsabilité. Parce que personne ici ne dit aujourd'hui que non, et pour diminuer ça, il faut créer, je ne sais pas si c'est quoi. C'est rien. Parce que si on avait d'abord l'emploi dans notre pays, même je ne sais pas, on devrait compter 4 ou 5. C'est-à-dire, peut-être que ça devrait être dans une carrière, par exemple.
Oui, vous avez insisté sur la responsabilité de l'État, comme ce que vous dites, il n'y a que l'État qui doit agir, mettre de l'ordre pour éviter qu'on arrive à ce genre de cas. Vous avez évoqué la barrière des Lupoto, vous avez été une fois, vous avez trouvé les inspecteurs des mines, c'est de ces scams, ils sont là, mais vous ne voyez pas vraiment une action efficace pour lutter contre ce phénomène. Et vous avez ajouté autre chose en évoquant l'emploi. Vous dites, s'il y a création d'emplois, ça peut faire aussi que beaucoup de gens ne soient pas attirés vers l'exploitation artisanale de minières. Et merci beaucoup, Kams. Dadi, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Dadi, pour vous, d'une manière plus efficace, vous avez suivi l'explication de votre invité. Qu'est-ce qui doit être fait pour lutter contre ce phénomène?
Oui, je l'ai suivi religieusement. Je crois, au-delà de la formation des encadrés, moi, je pense plutôt qu'il faut former non seulement les encadrés, mais former aussi les créseurs artisanaux. D'abord, il faut passer par la formation de ces créseurs. Lorsqu'ils sont formés, qu'on leur délivre ce que je peux appeler les brevets. Alors, en délivrant ces brevets-là, et les propriétaires de ces carrés miniers, avant qu'un créseur artisanal puisse accéder dans son carré minier, qu'il puisse présenter d'abord ses brevets. Alors, une fois présenté les brevets, les propriétaires de ces carrés miniers actent. Et une fois qu'il acte, si jamais un incident s'est posé, que les responsabilités de ces carrés miniers soient, en fait, engagées. Et puis, de deux, je pense qu'une fois formés les créseurs artisanaux, au sein de ces créseurs artisanaux-là, on puisse maintenant former un comité qui sera chargé de suivre l'évolution sur le terrain, donc suivre comment les créseurs artisanaux opèrent pendant la journée ou pendant la nuit. Parce que dans la plupart des cas, ces incidents se passent souvent pendant la nuit. Mm-hmm. Je crois que de cette façon-là, je pense que le gouvernement, s'il procède de cette façon, nous allons essayer tant soit peu résoudre ces problèmes des accidents qui sont dus par les écoulements des terres.
Merci beaucoup, Dadi. Vous pensez qu'au-delà de la formation des encadreurs, il faut aussi former, les créateurs doivent être formés. Celui qui a suivi la formation doit avoir un papier, un document qui atteste vraiment qu'il a suivi la formation. Et comme ça, pour avant d'aller dans un carré, dans un site d'exploitation artisanale, il doit détenir ce document qui lui confère la qualité du créateur. Mais il doit y avoir aussi une organisation interne entre eux. Hein. Ils doivent être organisés d'une manière à ce que les uns puissent surveiller les autres et surtout et contrôler la nuit, parce que la plupart des accidents arrivent la nuit. Merci beaucoup, Dadi. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont écrit, qui ont posé les messages sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Il y a Guyumba Lusala de Matadi, il dit ceci: je me souviens encore de la catastrophe Trumo. L'État doit identifier tous les secteurs miniers et l'exploitation doit se faire par des machines. Pour moi, lui, il préfère qu'on puisse plus privilégier une exploitation industrielle. Faustin Onengo Mabele de Mongualou, cette situation interpelle notre gouvernement. Il faut que la police des mines soit capable de bien faire son travail. Junior Massimango, lui pense aussi qu'il faut créer beaucoup d'emplois dans d'autres secteurs et comme ça on va diminuer le nombre de ceux qui prennent les risques pour aller exploiter les minéraux d'une manière artisanale. Nous allons écouter Robert qui est à Durban, province orientale. On va revenir à notre invité pour commenter ce point de vue des auditeurs. Robert, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour à tous les auditeurs de la radio Fatih.
Vous êtes à Durban. Vous êtes à Durban, province orientale. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour lutter contre ces phénomènes et d'éboulement dans les sites d'exploitation artisanale?
Oui, merci monsieur. Je voudrais d'abord réagir par rapport à ce que votre invité nous a dit seulement qu'il y a des problèmes, il y a ces services-là, des services de ces femmes qui est en train de jouer au Katanga, et pourtant, c'est non, c'est que pour personne que Kibale Goldman est aussi en train d'exploiter de l'or dans la province orientale, ici, précisément ici à Durba et dans les carrés miniers de Kibale Goldman. Je me demande si ce service, aussi, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que ce service vienne jouer aussi dans cette contrée ici. Et certainement, vous l'avez appris, dernièrement, il y a eu des problèmes de trésors d'or autour des mines à Diva. À Diva, c'est dans le territoire de Paris, 30 km d'ici. Les trésors se sont révoltés contre le monitorium du gouverneur de la province. Ils ont demandé peut-être, certaines autorités étatiques, on leur a demandé de décanter de la mine d'or. On a noté qu'apparemment, il n'y a pas de service qui fonctionne ici. On voudrait demander à ce service de venir s'installer, de fonctionner comme cela se doit et surtout de sensibiliser les stocks d'or afin de se constituer en coopérative et surtout de pouvoir, faire tout pour que ces trésors-là se sentent sécurisés et conduits et puis encadré par ces services de SCAM. Merci.
Merci beaucoup, Robert. Vous souhaitez l'installation de ces SCAM à Durba particulièrement pour qu'ils puissent encadrer les créateurs artisanaux, c'est qu'ils soient de l'ordre là-bas. Mais vous avez évoqué aussi la situation de ces créateurs hein, qui exploitent les carrés miniers appartenant à la société Kibal Gold Mining. Kibal Gold Mining, c'est ça. Voilà, mais vous souhaitez qu'il y ait vraiment la présence hein, de ces scams pour encadrer les créateurs. Merci beaucoup, Robert. Vous êtes à Durba, en province orientale. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer la situation dans l'exploitation artisanale et lutter contre les éboulements? 081-890-63-15, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Baudin Yeta, vous avez suivi nos premiers intervenants et tous ils sont d'accord qu'il faudrait que l'État prenne les responsabilités. Il voudrait voir les inspecteurs de SESCAM à l'œuvre, il voudrait voir la police des mines, il voulait vraiment tous sont d'accord qu'il faut quand même qu'il y ait la présence vraiment de l'État pour mettre fin à cette situation. Mais il y a Dadi de Kinshasa qui a quand même proposé beaucoup de choses, l'encadrement des créateurs, fait qu'ils doivent être formés, doivent avoir un papier qui montre quand même qu'ils ont eu la formation sur l'exploitation artisanale pour éviter que n'importe qui s'y introduise et fasse n'importe quoi. Quel est votre commentaire par rapport à tout ce qui a été dit par nos auditeurs?
Merci pour la parole. Je voudrais reprendre celui qui... Monsieur Kams qui a téléphoné délicat civil. Il a affirmé un certain nombre de choses qui me paraissent incorrectes. Parce que moi, je suis délicat et je viens délicat d'ailleurs. Il n'y a pas un mois, j'étais là. Donc, je fais le tour. J'étais à Kalini, j'étais à Likassi, j'étais à Kolo, j'étais à Rumbashi. Ce que la plupart des gens doivent comprendre, c'est que si l'État congolais a toléré l'exploitation minière artisanale, n'est-ce pas, c'est pour lutter contre la pauvreté. Et derrière ce schéma, il existe un cheminement pour réduire le plus sensiblement possible l'exploitation artisanale dans son état actuel, pour réduire cette exploitation et la muter vers les mines à petite échelle. C'est lui qui a parlé tout à l'heure de l'exploitation industrielle. Oui, nous visons la classe moyenne congolaise qui devra s'installer dans le secteur des mines et qui va être soit totalement mécanisée, soit semi-mécanisée. Parce qu'il ne faut pas que les gens se comportent comme si cette exploitation, elle va durer dans son état jusqu'à X temps. Non. Elle existe, elle est tolérée, on la transforme pour qu'elle devienne une exploitation semi-industrielle ou industrielle. Mm-hmm. Quant à la formation des créateurs, c'est vrai, la loi d'ailleurs le prévoit. Nous formons des encadreurs pour que ces encadreurs aillent à leur tour former les créateurs dans les sites. Quand nous regardons l'activité artisanale dans ces pays, je ne dirais pas le nombre des créateurs, parce que ça serait pas correct de parler du nombre des créateurs.
Ouais.
Ça serait correct de parler des gens impliqués, parce qu'il y a ceux qui creusent, il y a ceux qui font monter les produits, il y a ceux qui les nettoient, il y a ceux qui... Bon, on n'est pas loin des 2 millions. Pensez-vous que l'État congolais est capable de mettre derrière chaque créateur un encadreur pour lui dire qu'il faut faire ci ou ça? Non. Nous revenons à ce que j'avais dit. La loi prévoit qu'il y aura des regroupements des créateurs.
Et c'est ce qu'il y a, c'est tout à l'heure Robert de Durba.
C'est ça, mais ça existe, les coopératives. Nous en avons beaucoup, les coopératives. D'autres s'est créé encore. Son Excellence, M. le ministre des Mines, je crois qu'il a grillé plus d'une centaine de coopératives minières. Nous avons les arrêtés. Ça existe. Il y a des coins, bien sûr, un peu plus éloignés, dans lesquels il faut sensibiliser les gens à ce que ces services. Parce que l'activité artisanale, elle naît rapidement, elle disparaît rapidement. On n'a même pas le temps de réaliser qu'il y a des gens qui sont en train de creuser quelque part, qui n'y sont plus déjà. Ils ont changé de place. C'est lui qui a parlé d'Kibali. Mais dans la province orientale, il existe déjà un protocole d'accord qui a été signé il y a 4 ou 5 ans entre l'Okimo, le CESCAM et les coopératives minières. Donc le même schéma de protocole va être répété avec toutes les coopératives qui aujourd'hui œuvrent dans les concessions d'autrui, donc Kibali Gold dont il a parlé. Nous sommes au courant, il ne faut pas qu'il ait l'impression que le service de l'État en son propre nom. Le CESCAM aujourd'hui a 16 antennes à travers toute la République. Dans la province orientale, il y a déjà 3 antennes. Il y a l'antenne de Kisangani, il y a l'antenne qui se trouve à Izio, il y a l'antenne qui se trouve à Bouya. Donc, les temps de trouver le personnel qu'il faut, les moyens qu'il faut, parce que la plupart des auditeurs, surtout celui qui a demandé à ce que les services de l'État fassent leur travail, oui, moi je veux bien. Il ne faut pas qu'ils se comportent comme si les services de l'État ont reçu un budget conséquent et que ceux-ci ne sont pas exécutés.
Mmh.
Hein? Donc il y a aussi ces problèmes. Quels sont les moyens qui sont mis à la disposition du CFK? Nous sommes déjà plus de 1000, nous sommes autour de 1300 personnes du CFK dans toute la République. Il faudrait un peu plus d'encadreurs, c'est vrai. Les problèmes sont là, ils existent, nous ne les nions pas. Nous faisons l'effort nécessaire pour résoudre, réduire ces problèmes et faire de sorte que cet artisanat minier, non seulement profite aux creuseurs aujourd'hui, parce que la plupart, vous savez, ils se regroupent, il y a quelqu'un qui arrive, qui s'est dit financeur, il sort un peu l'argent, il leur dit, vous allez travailler pour moi, mais ils acceptent en fait. Ils travaillent pour lui, et on ne sent pas le poids réellement de leur production dans leur vie au quotidien. Donc c'est encore l'État qui doit les organiser. L'État donne des idées, n'est-ce pas? C'est le problème des coopératives, nous y tenons absolument, parce que je crois que dans la nouvelle loi, aucun creuseur ne pourra évoluer en singleton. Il faudra qu'il adhère à une coopérative de son choix.
Mmh.
Et les coopératives vont travailler sur des zones d'exploitation artisanale bien établies, et ces coopératives pourront se réunir en fédération des coopératives. C'est ça, le véritable encadrement.
Et nous avons évoqué, je crois, presque trois fois le problème de moyens qui s'impose. Alors, dans le fonctionnement des systèmes, par exemple, parce que vous êtes responsable de cette structure, les moyens, ils proviennent de, quand je sais comment, c'est le ministère des Mines, l'État congolais, c'est le ministère des Mines qui vous donne des dotations. Comment vous fonctionnez pour arriver vraiment à encadrer plus de 1000 personnes et leur permettre vraiment de faire le travail comme il faut?
Oui, bon. Initialement, c'était prévu que les 16% des droits superficiels devraient être versés au CFCAM, n'est-ce pas? Et il y a un certain pourcentage qu'on devait verser à d'autres services aussi, mais les choses ont un peu changé. On a plus, les droits superficiels sont totalement versés dans le trésor public, et nous recevons une dotation. Mais les textes que nous créons aussi prévoient qu'il y aura une rémunération pour services rendus, qui sera versée par les différents opérateurs, pour lesquels le service ESCAM sera nécessaire. Bon, il y a des arrêtés provinciaux qui arrêtent la hauteur de cette rémunération et qui la répartit d'ailleurs. Au départ, c'était un fonds ESCAM réellement. Mais on s'est rendu compte que des services comme la division des mines, la police des mines, même le gouvernorat, ils ont exprimé vivement le besoin d'avoir une participation, d'obtenir quelque chose dans ces petits budgets-là. Donc, ce qui fait que sur les frais de rémunération des services rendus, les services, le CESCAM a environ, ça dépend de province, entre 25 et 30% seulement.
Et dans ces conditions, ça sera difficile de couvrir tous les besoins et de permettre aux gens de travailler de manière plus efficace.
Nous battons réellement pour que les gens comprennent. Néanmoins, ceux qui connaissent CESCAM, ceux qui sont là où l'activité doit être développée, ils sentent la nécessité de ces services et ils reconnaissent ce que le service fait. L'équipe des garçons ici, M. Kams, a évoqué le cas de Lupoto. Moi, j'étais à Lupoto. Mais Lupoto est en train de diviser en CEA. C'est une ZRG, une ancienne concession de la Jutamine qu'on va donner à l'artisanat minier. Donc on va installer des coopératives véritables, hein, pas des aventuriers qui viennent, ils sont deux ou trois, envoyés par tel ou tel, non. Des véritables. Et ces véritables coopératives pour lesquelles son Excellence a eu à signer des arrêtés, n'est-ce pas? Elles fonctionnent selon les règles déjà bien établies, c'est-à-dire avoir des papiers bien notariés, avoir un compte en banque, etc. Donc, tout ça est connu.
Mm-hmm.
C'est connu et c'est en voie d'exécution. Hein. On commence par les Katanga, la province pilote, et puis il y a les Kasaï qui vont suivre, et puis la province orientale, et puis il y a le Maniema, il y a le Nokivu aussi, où l'activité est vraiment très très bonne.
Les auditeurs sont revenus, il y a par exemple notre ami... Et lui, comme s'il a parlé de la police des mines, des inspecteurs des mines. Alors, au niveau de votre collaboration sur terrain, qu'est-ce qu'elle doit faire la police des mines? Elle doit se limiter, les inspecteurs des mines doivent-ils se limiter ou par rapport à ce que fait le CESCAM? Est-ce que cela est bien expliqué aussi à la population, aux creuseurs eux-mêmes pour savoir comment on collabore avec tous ces services sur terrain?
En principe, les creuseurs devraient le constater. Sur terrain, les creuseurs devraient voir que tiens, ça, la police des mines, voilà, elle est habilitée à faire ceci, CESCAM est habilité à faire ça, la division des mines est habilitée à faire ça.
Mm-hmm.
Théoriquement, ça se passe comment? Le CESCAM est présent depuis d'exploitation jusqu'au moment où les produits vont sortir. Et ce scam est présent, il est contrôlé. Il est inspecté par la division des mines, qui, quand les produits sortent, eux aussi prennent le relais pour être présents là où les produits vont être discutés, n'est-ce pas ? Ou mis en paquet avec le tagging. La division des mines doit être présente. N'est-ce pas ? La police des mines, elle est présente. On a des facilités de la contacter quand il y a un problème. Quand quelqu'un qui n'a pas l'autorisation de transporter les minerais, par exemple, est attrapé en flagrant délit avec un sac contenant les minerais, la police des mines doit pouvoir intervenir, verbaliser la personne. Quand on voit des étrangers dans les sites artisanaux qui sont réservés aux Congolais, on doit pouvoir interpeller les personnes. La personne plutôt, pour être verbalisée, être entendue. Donc quand il y a un désordre qui apparaît, la police des mines doit pouvoir intervenir pour créer les calmes et que les conditions de travail soient maintenues, qu'elles soient maintenues normales. Bien sûr, il y a toujours quelques dérives. Malheureusement, ce sont les petites dérives qui font, dans le parler au quotidien, qui font le grand titre.
Merci. Et nous avons Jean des Dieux qui est à Kikwite dans le Bandundu, Jérôme est à Kananga au Kasso Occidental, Ribo à Kasongo-Lunda dans la province de Bandundu. On va vous accorder la parole tout à l'heure. Nous parlons de l'exploitation artisanale, des cas d'éboulement avec mort d'homme en province orientale dans le Katanga. Comment faire face à cela de manière plus efficace? Comment mettre fin à ces accidents? Nous recevons dans ce studio, je vous le disais tout à l'heure, M. Baudin Yeta, coordinateur de CESCAM, service d'assistance et d'encadrement du Small Scale Mining en service du ministère de Mines, 0811-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Jean des Dieux, vous êtes à Tikwit et nous avons d'abord ce message de Pascal Louis Duré qui nous a écrit des boucs à vous. Je pense que l'État congolais doit prendre ses responsabilités, doit identifier tous les secteurs miniers importants du pays et mettre sur pied un mécanisme d'exploitation modernisé, surtout que la révolution de la modernité est évoquée par tout le monde. Alors il faut passer maintenant à la concrétisation de paroles. L'État pourra faire comme Banro Mining Corporation ou bien Katanga Mining, malgré que ces deux corporations travaillent plus pour leurs intérêts, mais ils ont apporté des machines pour l'extraction de minerais. Mais il faut mettre aussi en place des usines de traitement des différentes matières, former la main-d'œuvre localement. Alors, comme ça, beaucoup de créateurs seront utilisés, engagés par des grandes entreprises et ils pourront gagner leur vie de cette manière. Moïse Tembo, Mano qui nous écrit des Mutuanga au Nord Kivu, pour lutter contre cette situation, ici, nous demandons au gouvernement de créer les services en optique. Mais les services qui existent déjà doivent travailler d'une manière plus efficace et on leur doit des moyens nécessaires. Mika Libengelo, la responsabilité revient à l'État congolais qui doit prendre toutes les mesures sans pour autant passer à l'humanitaire afin de lutter contre ces phénomènes. Jean-Jacques Mwembo, la mise sur pied d'une législation qui réglemente ces secteurs et protège les uns et les autres est aussi très importante. Alors, Jean des Dieux, on vous écoute, vous êtes accusé. Jean des Dieux, vous êtes avec nous. Jean des Dieux, vous êtes à Kikwit. Bonjour, Jean des Dieux. Voilà, apparemment, Jean des Dieux est distrait sur sa ligne. Hein. On va à Kananga, au Kasso Occidental. Jérôme, bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Bonjour, amis auditeurs.
Alors, Jérôme, on vous écoute. Qu'est-ce qui doit être fait de manière plus efficace pour lutter contre les éboulements au Kasso Occidental ou aussi les diamants exploités de manière artisanale?
Oui, c'est Jérôme Michel Nzingi Touleye. J'appelle à Bato de Kananga. Moi, je pense que c'est d'abord le chômage en République démocratique du Congo qui est vraiment à la base. Parce que au Congo, vous savez, au Congo, il n'y a pas de travail et puis les jeunes sont en grand nombre dans des carrières et c'est pourquoi ils meurent de temps en temps. Alors moi, je pensais que peut-être il faut d'abord réduire le nombre des gens dans des carrières, réduire le nombre des gens. Là, ça pouvait quand même aller. Hein, la formation, oui, on peut former, mais attention, parce qu'il y a aussi ces gens-là qui sont expérimentés, donc qui ont de l'expérience. Alors, ils en font mieux que ceux qui sont formés. Alors, je voudrais aussi demander s'il n'y a pas des matériels de protection, par exemple, comme on donne des matériels aux naufragés, hein, aux gens qui sont dans des bateaux, dans des pirogues, est-ce qu'il n'y a pas des matériels comme ça de protection? Et puis, j'avais aussi une question à poser à notre invité, qui peut nous dire, il y a combien de types d'exploitation là, dans les carrières, il y a combien de types? Et parmi ces types-là, quel est le type dans lequel nous trouvons plusieurs cas d'accident? Voilà mon intervention.
Alors, merci Jean, plutôt Jérôme de Kananga. Vous pensez que d'abord, il faut considérer la question d'une manière transversale aussi, avec d'autres secteurs, la création de emplois. S'il y a beaucoup d'emplois, ça va faire qu'on puisse réduire d'abord le nombre de jeunes qui se ruent vers les carrières d'exploitation artisanale. Alors, vous avez posé la question à notre invité, s'il y a aussi le matériel de protection qu'on donne aux créateurs, si jamais ils sont en difficulté pour qu'ils soient protégés. Et la deuxième question, c'est les types, vous avez demandé les types d'exploitation qui exposent vite au danger des éboulements sur lesquels il y en a. Merci beaucoup, Jérôme. Ribaud, vous êtes à Fassongolunda, dans la province de Bandundu. Bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, on vous écoute. Vous avez suivi notre ami des cas dans la page qui pense que s'il y a assez d'emplois au pays, ça va faire que de moins en moins de jeunes pourront aller à exploiter d'une manière artisanale le minerai. Alors, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait d'une manière plus efficace?
Merci, monsieur le journaliste. Je suis très content de cette émission parce que dans les cas Kasongolunda, précisément, je suis à Kipit. J'interviens depuis Kipit.
Mm-hmm.
Parce que Kasongolunda, c'est mon territoire. Au moins, nous avons 75% de jeunes qui font l'exploitation artisanale. 75% dans les cas Kasongolunda. Alors, je connais le service de SESCAM, qui est le service d'assistance et d'encadrement du SMAL, SCAL Mining, qui est le service d'encadrement où nous avons des agents chargés de suivi des travaux miniers. Est-ce qu'ils les font réellement? Parce que, vous voyez, quand vous arrivez dans nos carrières, par exemple, dès que vous arrivez là, vous trouvez plutôt les agents qui font aussi les diamants ensemble avec le trésor. Est-ce que les ordinateurs, ils perdent la capacité des agents?
Voilà, votre téléphonique, Rivo, votre ligne téléphonique nous pose des petits soucis. Mais dis-moi, vous avez dit, effectivement, à Kasongolunda, vous avez des agents, mais il reste à savoir s'ils font exactement leur travail. Et vous avez demandé à notre invité s'il y a moyen de renforcer leurs capacités, parce que vous dites qu'il y a des sites où les agents eux-mêmes se transforment aussi en créateurs. Alors, vous avez demandé à l'invité s'il y a moyen de renforcer leurs capacités pour mieux faire leur travail. Mais malheureusement, la ligne téléphonique s'est détériorée vers la fin de votre intervention, Ribo. Mais nous vous disons merci de nous avoir appelé de Kikwita, mais vous avez évoqué les cas des Kasongolunda dans le Bandundu. Nous restons dans la même ville avec Jean Desdieux. Bonjour Jean Desdieux.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à notre invité.
Jean Desdieux, on vous écoute. Qu'est-ce qui doit être fait pour lutter contre les phénomènes d'éboulement dans les carrières d'exploitation artisanale?
Merci beaucoup pour la parole. Moi qui vous parle, j'ai été créateur dans les mines de Kamako, au Kassai occidental, dans le territoire de Chikapa. Monsieur le journaliste, l'an 2007, 2008, là où on créait les diamants, vous voyez là où il y a beaucoup, on trouve facilement les diamants, c'est les gens qui entrent nuit et jour. Il y a des gens qui quittent Bandundu, qui quittent la Sainte Orientale, qui quittent même à Kinshasa, qui viennent là, et d'autres voient les autres en train de creuser. Vraiment, il n'y a pas moyen de contrôler les gens, et même s'il y a des policiers de mines, ils ne seront pas parce que la nuit, comme la journée, c'est les gens qui entrent. Moi aussi, j'ai failli mourir à des boulements et des trous. qu'on appelle là-bas Majimba. Ce sont des trous là qui peuvent mesurer 12 et 14 mètres. Et là, il y a aussi des chambres à l'intérieur. Et quand les gens parlent à partir même de 22h pour aller creuser, il n'y a même pas de lumière. Imaginez quelqu'un qui entre avec les bougies, il faut aller creuser parce que là-bas, si vous attrapez un peu de carreau comme ça, vous avez beaucoup de diamants, c'est souvent incontrôlable. Et nous trouvons qu'il y avait beaucoup d'éboulements parce que l'État congolais ne se tenait même pas compte. Même les gens là qui partaient là-bas pour aller contrôler, ils contrôlent pour son propre intérêt. Quand on a attrapé le diamant, il ressort ce qu'il a besoin et il ne contrôle pas comme il faut. Et cette fois-ci, j'encourage que notre gouvernement puisse prendre des dispositions de mettre les policiers de mine, comme l'invité vient de le dire, et d'assurer vraiment la sécurité dans le mine des diamants pour que, et là, parce que nous approchons, notre pays doit être un pays émergent. Et les années qui suivent, qu'on ne parle plus de l'éboulement, surtout dans les carrières minières. Mmh. Et ce que j'ajouterais aussi, c'est manque d'informations sur certains creuseurs. Il y a des gens qui peuvent quitter Bandundu, ils quittent par exemple le site. Ils ne connaissent pas comment creuser. Parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils voulaient étudier, ou bien il a besoin de l'argent, ou bien son ami qui a quitté Bandundu, il est parti là-bas, et dans ce retour, il a beaucoup d'argent. Il part là-bas, il ne sait seulement rien, il se donne toujours à travailler comme ça, sans avoir des informations comment creuser. C'est pourquoi il y a aussi d'autres déboulements par ignorance des gens. Alors, on doit aller les répertorier et identifier qui doit travailler dans les mines, qui ne doit pas travailler. Est-ce qu'il y a même les enfants de 12 ans qui sont là dans les mines? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme je dis aussi, comme quelqu'un qui a été dans les mines et j'ai aussi là-bas, je suis grandi là-bas, ce que je dirais aussi, c'est la prise en charge de tous les mines.
Oui, Jean de Dieu, vous avez évoqué assez de choses qui sont vraiment intéressantes. Vous avez parlé du boom, hein, si on peut utiliser cette terme. Vous savez, quand il y a par exemple les diamants exploités dans un carré quelque part, que ce soit à Kamako, que ce soit à Kamonya, Chikapa, à Bakwachimona, partout ailleurs, vous avez des milliers de personnes qui exploitent nuit et jour, et dans ces conditions, vous dites qu'il devient difficile vraiment de pouvoir les contrôler parce qu'ils sont très, très nombreux. C'est que ce sont des Majimba, les thèmes que vous avez utilisés, ces trous de 12 à 15 mètres avec des galeries souterraines où ils exploitent la nuit, et là, ça devient difficile vraiment pour pouvoir les contrôler. Et quand bien même il y aurait des agents qui vont s'y rendre, vous estimez que les gens travaillent pour leur intérêt. Et là, vous avez évoqué le cas du renforcement de la sécurité, mais aussi de l'information. Nombreux sont ceux qui partent des autres provinces pour se retrouver dans les carrières d'exploitation. Alors, ils n'ont aucune information sur l'exploitation. Et là, ça devient aussi une grande préoccupation. Merci beaucoup pour ces témoignages. Vous êtes à Kikwit. Ozana Moulinda Bouar de Boutembo. Notre pays n'a pas beaucoup d'emplois. Beaucoup de jeunes se débrouillent à travers l'exploitation artisanale de minerais. Patrick Kalongi de Mbujimaï dit l'État congolais doit prendre la population en charge en créant beaucoup d'emplois. Ceci permettrait aussi les décès dus à l'exploitation artisanale. Williamson Kaseba de Kamina, cela prouve qu'il y a un grand taux de chômage dans notre pays. Il y a beaucoup de sociétés d'exploitation et comme ça, on pourra absorber tous ces creuseurs, tous ceux qui vont s'exposer dans les carrières d'exploitation artisanale. Maître Sonville, vous gardez la ligne, vous êtes à Lubumbashi, on revient à vous, M. Baudin Yeta, vous avez suivi les uns et les autres. Mais tout à l'heure, quand Jean Desjeux de Kivu s'est évoqué des carrés miniers, par exemple à Kamako, où vous avez des centaines de personnes qui sont tenues des jours parce qu'il y a beaucoup de diamants, et là ça devient difficile. Mais là, ça devient encore compliqué quand vous avez des agents de l'ordre qui eux-mêmes, ils sponsorisent aussi les activités, ils sont dedans, vous allez vous retrouver avec les chefs des bureaux des CELA, vous allez vous retrouver avec les commandants de la police, les commandants bataillons, vous tous vous vous retrouvez là-bas dans l'exploitation. Alors là, je crois que ça va être très difficile aussi pour les CESCAM de pouvoir travailler d'une manière convenable dans ces conditions-là.
Excusez-moi. Effectivement, il faut reconnaître une chose, c'est que quand on trouve les agents de l'État en train d'exploiter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une dérive. Parce que ces gens n'ont pas été engagés pour aller dans les carrières et exploiter. C'est pour mettre de l'ordre. C'est une dérive. Mais c'est une dérive qui a sa souche quelque part.
Mmh.
Le problème, il est, je dirais, au niveau hein, du pays, il est global, hein, vous savez, quand les policiers ne sont pas bien payés, par exemple, hein, qui se trouvent dans une mine où ils voient passer des colis de diamants qui valent 35, 40 000 dollars, bon, c'est facilement. Hein. Donc, on peut trouver une solution globale, mais la meilleure aurait été la solution, la meilleure aurait été celle qui aurait permis à l'État de connaître à l'avance les zones dans lesquelles les gens travaillent et ce que contiennent ces zones. Hein, nous avons un peu failli, on s'est rattrapé maintenant. Donc, il aurait fallu que notre pays ait un service géologique digne de ce nom, comparable à la US Geological Survey. Donc, nous sommes un pays minier, on devrait avoir un grand service géologique qui exécuterait des travaux géologiques pour l'État congolais, ce qui lui permettrait de connaître ce que nous avons sur chaque kilomètre carré, par exemple. De sorte que on pourra disperser les coopératives ou les placer dans des zones bien choisies. Mais quand on ne sait pas et que les gens découvrent, de par leurs efforts propres, n'est-ce pas, certains gisements ou certaines marmites en termes géologiques qui comprennent beaucoup, beaucoup de diamants, on a parlé du boom, il est clair que l'afflux de la population, elle sera incontrôlable. C'est clair. Chacun vient pour essayer de tenter sa chance, dans l'espoir qu'il va ramasser le plus gros caillou, ça va un peu beaucoup plus d'argent. Moi, j'ai vu des exemples où des creuseurs se sont mis ensemble, ils se sont mis à creuser quelque part, où ils se sont dit, si on arrive sur les graviers, peut-être que ces graviers auront du diamant. Mais quand ils sont en train de travailler, quand ils creusent, ils sont peut-être 7 ou 8. Mais une fois qu'on a atteint le gravier, il y a 200 personnes qui arrivent.
Oui.
Et qui plongent là-dedans. Allez-y contrôler. On ne peut pas non plus se mettre à tirer sur ces gens parce que, vous voyez, il y a le droit de l'homme qui va intervenir. C'est tout ça qu'il faut pouvoir arranger correctement. Mais je pense que le départ, s'il avait été bien étudié, bien préparé, on aurait pu éviter beaucoup de ces problèmes que nous vivons. Je suis en plein dedans. C'est tous les jours que je reçois des coups de fil. Des agents qui se plaignent ou des creuseurs qui ont été spoliés par tel ou tel, en fait on met tout ça sur le dos de ces scams. Vous voyez, quand certains agents d'État envahissent par exemple des sites, ils y travaillent, ils poussent les gens à travailler la nuit, ils ne demandent pas la vie de ces scams, ils passent outre de ces scams. Mais quand il y aura un accident,
malheureusement,
tout le monde va se retourner vers ces scams. Voilà, c'est ça, ces scams qui fait ceci. Non, c'est un peu ça qu'il faut comprendre, que nous devons absolument organiser. Pour revenir à celui qui a appelé à partir de la province du Kivu, là, l'État doit prendre ses responsabilités. Oui, mais nous parlons presque le même langage. J'insiste, je répète ce que j'ai dit, l'État n'a pas accepté l'artisanat minier pour le garder dans cet État-là. Vous savez, il y a un problème qu'on doit peut-être soulever. Nous avons d'une part les grandes mines dans ces pays. Nous avons les grandes mines, et après, quelques permis des mines à petite échelle qui se manifestent à peine, mais le gros qui suit, c'est l'artisanat minier. Or, l'État veut se retourner vers ses propres fils expérimentés dans le secteur minier, ces artisanaux qui doivent se regrouper en coopérative, et quelles coopératives doivent se regrouper en fédération. C'est pour que naisse ou émerge une classe moyenne congolaise sur laquelle l'État va se reposer, parce qu'aujourd'hui, les grosses mines, quoi qu'on dise, n'est-ce pas, nous allons produire cette année probablement 12 ou 15 000 tonnes de cuivre, dans lesquelles le cinquième, c'est-à-dire 300 000 tonnes, proviendra de l'artisanat minier. Nous, on ne fera pas ça dans l'artisanat minier.
Oui.
Le niveau des artisanaux n'a pas évolué pour autant. Et quelle est la grande question qu'on doit se poser, quelle est la contribution du secteur minier au budget national aujourd'hui? C'est 6,5%. Alors que du temps de la Jutamine, qui était 100% État congolais, au plus fort de sa production, la Jutamine n'a produit que 400 000 tonnes. Mais sa contribution au budget national était de 30%.
Oui.
Donc, on doit pouvoir faire retourner vers ces artisanaux, n'est-ce pas, les pousser à se mettre en coopérative, créer des mines à petite échelle qui seront tenues par des Congolais pour que tout ce qui sera produit reste dans le pays. Alors qu'aujourd'hui, notre propre loi permet aux étrangers qui viennent exploiter, n'est-ce pas, encore que la Constitution dit le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais, mais ils viennent exploiter. Nous avons un communiqué qui est une loi. Ils exploitent et les 60% des fonds vont à l'étranger.
On va revenir par rapport au code minier. Il faut savoir, en sommes-nous aujourd'hui, beaucoup de voix ont été. On a entendu beaucoup de personnes réclamer vraiment la, que ces codes soient revisités, les termes, plusieurs termes, il fallait les revisiter, il fallait les modifier, tout cela. On va voir où en sommes-nous aujourd'hui. On a même eu aussi deux émissions par nos auditeurs autour de ça. Bon, on va écouter les trois derniers auditeurs de cette émission rapidement. Maître Sonville Alboumbachi, Bonheur à Wali Kale, Daniel. On va terminer avec vous, le temps aussi, et d'accorder la parole à notre invité pour conclure. Maître Sonville, vous avez suivi les uns et les autres rapidement. Alors, qu'est-ce qui doit être fait de manière plus efficace pour mettre fin à cette situation?
JR, bonjour à l'invité, et bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Capi. Je vous remercie de m'avoir sélectionné, vu la quintessence même de la thématique qui est développée aujourd'hui. J'estime que, M. JR, je remercie d'abord les représentants de CESCAM, du fait que CESCAM joue le rôle d'organe technique du ministère de Mines. Mais, M. JR, il y a un problème. Il n'y a pas seulement un problème de déboulement là où on a eu à percevoir la perte en vie humaine. Il y a aussi un problème de logistique, M. JR. J'estime que CESCAM, en tant qu'organe technique, doit aussi prévoir la logistique en ce qui concerne les creuseurs. Parce que la manière dont nous voyons les creuseurs est donnée à cette zone-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sécurisés. C'est-à-dire que quand ils vivent dans un puits, ils ne sont pas sécurisés, c'est à leur risque sort et à risque et péril. Pourquoi je dis ça, M. Gilles? Il n'y a pas d'équipement que les CESCAM dotent à ces creuseurs. On nous a parlé des coopératives d'encadrement. Ces encadreurs, si leur problème n'est pas seulement de soutirer le pourcentage en ce qui concerne la matière qui est exploitée là-bas auprès des creuseurs, et c'est unique à ce niveau-là. Il n'y a pas d'autres encadrements. Ils n'ont pas de techniciens qui mettent à la disposition de ces creuseurs pour savoir comment est-ce que ces creuseurs peuvent s'attirer pour éviter ces dangers-là.
Voilà, parce qu'il y a encore deux auditeurs, plus notre invité pour conclure. Vous avez insisté sur la logistique, les équipements, c'est ce qu'on devait mettre à la disposition des creuseurs pour leur permettre d'être sécurisés, mais aussi permettre aux coopératives d'exister en tant que coopératives, mais plutôt que percevoir les différents prêts. Mais parce que là, on ne saura pas aller plus loin, il y a encore Bonheur qui est à Wali Kale, et Daniel, dans la ville où vous êtes aussi, à Lubumbashi. Rapidement, Bonheur, vous êtes à Wali Kale, au nord de vous, on vous écoute. Qu'est-ce qui doit être fait? Bonheur, vous êtes avec nous? Voilà, on a perdu Bonheur. On va terminer avec Daniel. Daniel, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga. Bonjour, Daniel.
Bonjour, et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment. Comme nous sommes les derniers à intervenir, je remercie pour le sujet du jour, mais je voulais interpeller sur une chose. Moi je suis aussi personnel de santé, des minéraux auxquels les hommes font face dans les carrières, pas seulement ça produit des déboulements, sont des dangers que nous voyons avec les yeux, mais ça aussi a un impact sur la santé de la population qui y travaille. C'est qu'on ne sait pas voir avec les yeux. Je donne un exemple de mon père à moi qui suis minière dans une entreprise minière de la France, mais aujourd'hui, mon père ne sait plus respirer normalement, il a des problèmes sur le plan sanitaire. Quand nous voyons ce qui se passe, par exemple, à Kipushi, quand on voit ce qui se passe à Kasumo, des dames qui travaillent dans de l'eau, des minéraux, on ne sait pas ce que ça a de l'impact sur la santé. La grande question que je me pose avec un grand point d'interrogation, c'est que comment concilier la pauvreté? Parce que ce qui pousse cette population à aller dans de telles situations, c'est la pauvreté. Il est bon pour avoir quelque chose, de quoi mettre sur la table. Comment concilier les deux? La pauvreté et la préservation de la santé de la population. Voilà la grande question à laquelle nos autorités doivent répondre en premier lieu.
Merci beaucoup, Daniel. Il n'y a pas seulement le problème d'éboulement, mais l'exploitation artisanale, c'est aussi ces exploitants qui sont exposés à des problèmes de santé, au contact avec des différents minéraux. Vous avez, dommage et malheureusement, évoqué le cas de votre papa qui, aujourd'hui, présente des problèmes pulmonaires liés à l'exploitation de minéraux. Alors, vous dites que la grande question, c'est comment concilier la pauvreté et les efforts pour préserver la santé de la population face à cette exploitation. Il faut réfléchir là-dessus et trouver des solutions. Merci à tous, vous avez été très nombreux à réagir dans cette émission. Nous revenons à vous, Monsieur Baudouin Yeta. Il y a cette question par rapport au code minier, où en sommes-nous aujourd'hui, mais aussi placer un mot par rapport à tout ce qui a été dit dans cette émission pour vous permettre de la conclure.
Oui, merci beaucoup. Je répondrai à monsieur, il s'appelle Sonville.
Mais Sonville, oui,
qui a appelé de Lubumbashi. Mais je crois que...
Il a parlé des équipements.
Il a parlé de la disposition. Oui. J'ai été à Lubumbashi avec son excellence, monsieur le ministre de Mines, il n'y a pas longtemps. Je visitais les dépôts dans lesquels on a placé tous les équipements qu'on a achetés pour les coopératives. Ces équipements comprennent les pantes, les combinaisons, les masques pour les protections, les baramines, il y a des machettes, il y a des motopompes, il y a des tronçonneuses, il y a des motos. Donc, les équipements existent. Mais on les donne aux coopératives moyennant certaines conditions
oui.
qu'on a définies. Donc, les équipements, ben, nous faisons ces programmes des équipements avec la Banque mondiale, avec Promine. Donc, ça existe. Et puis, les trous ou les galeries les plus dangereuses, là où est passé cette scam, il y a toujours un drapelé rouge qui montre qu'il y a danger. Sauf si les gens, pendant la journée, bien sûr, passent pour enlever les drapelés. Alors, monsieur, ici...
Daniel a évoqué le problème de la santé. Il n'y a pas tellement les éboulements, mais aussi les contacts, la santé.
C'est vrai qu'il y a certains minéraux qui sont très dangereux pour les corps humains, du fait que ces minéraux mettent de la radioactivité dans certaines zones, bien sûr. Mais c'est des zones dans lesquelles, en principe, il est interdit aux creuseurs d'aller. N'est-ce pas? Les creuseurs y vont. Mais une chose qui est sûre, aujourd'hui, le SAESCAM peut jouer un rôle très important si l'État pensait à l'utiliser pour notamment lutter contre la pauvreté, parce que nous sommes un peu plus partout, mieux que les autres services.
Mais rapidement, un mot, parce que là, on termine déjà cette émission. Oui. Où en sommes-nous avec le code minier, les nouveaux qu'on attend vraiment, qui peut améliorer quand même la situation?
Je pense que les discussions sont presque à la fin. J'ai l'impression que, on attend plus que ce code passe au Parlement pour que les députés donnent leur dernier mot.
Merci beaucoup, monsieur Baudin Yeta. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les coordonnateurs généraux de SAESCAM, service d'assistance et d'encadrement du Small Scale Mining. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux auditeurs, vous avez été très nombreux. On va retrouver cette émission tout à l'heure à 20h, 3 minutes heure des Kinshasa en rediffusion, mais aussi sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir à tous.